Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonnes sur la fréquence 91.3. Vous êtes bien dans l'émission des jeunes reporters européens, vous pouvez nous retrouver tous les mardis de 12h30 à 13h ou en rediffusion le soir de 18h30 à 19h et même pour les grands fans sur le site de Eau de Radio en replay. Aujourd'hui pour l'émission nous avons beaucoup de monde autour de la table et ça fait encore une fois très plaisir. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, sans plus attendre, on passe au sommaire de notre émission. Donc, on va commencer, place aux fans d'abord, avec Ingrid qui donnera sa voix à la chronique de Richard pour les films de Noël. Puis, deux chroniques combinées, Claire qui a réalisé des interviews auprès de jeunes Européens pour nous parler un petit peu de Noël. Et puis Yann a invité Romy, Michel et Yannick à parler de leurs traditions. Ensuite, je me ferai le plaisir de vous parler de Noël, des musiques et de religion. Et puis, on passera à Guillaume pour l'actu européenne et enfin, une carte postale d'Héloïse. Tout de suite, la parole à Ingrid.
Bonjour à tous. Alors du coup, je souhaite d'abord dire un grand bonjour au ganglion énorme de Richard, qui fait qu'il ne peut pas être là aujourd'hui. Bonjour. Et
bonjour.
Sur moi que ça tombe pour lire sa chronique, mais il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, pour cette émission spéciale Noël, je vais vous parler des films de Noël en Europe. Alors apparemment, il fallait absolument qu'on parle de ça, parce que Richard, il me dit les films qu'on mate seul le soir à la télévision en période de Noël. Alors moi, je ne me sens pas concernée, mais allons-y, c'est parti. Donc, les films de Noël, c'est ceux qu'on retrouve chaque année, diffusés à la télévision en période de fête. Je pense que tout le monde à l'antenne a bien dû regarder 5 fois le premier Die Hard et « Maman, j'ai loupé l'avion ». Mais je voulais aujourd'hui parler des films de Noël partout en Europe. Merci Richard. En effet, si on regarde chez nous, on retrouve des grands classiques des périodes des fêtes. Je pense particulièrement à Astérix chez les Bretons, ainsi que toutes les autres aventures du Gaulois le plus connu. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Moi, mon préféré, c'est la bande à Picsou. Je ne sais pas si vous connaissez.
Ah non, je ne connais pas la chanson.
Mais aussi des comédies bien de chez nous, comme L'Inénarrable, Le Père Noël est une ordure. C'est un film que je déteste par ailleurs. Mais force est de constater que ces films sont peu connus à l'étranger ou du moins pas associés à Noël. Alors, comme Richard est un vrai reporter européen, il a mené une longue enquête à la MEBA chez les volontaires afin de leur demander quels sont leurs films de Noël. Donc, concrètement, il a posté un message sur Facebook auquel quelques personnes ont répondu. Voilà. Pas de problème. Alors, c'est Marlène qui vient d'Estonie qui lui a répondu en premier et qui lui a parlé d'un court-métrage qui s'appelle Dinner for Two, une vieille vidéo datant des années 60 en noir et blanc, en anglais et durant 15 minutes. Donc, comme j'imagine que vous voulez en savoir plus et comme Richard a écrit la suite, eh bien, je continue. Figurez-vous que cette vidéo inconnue en France est un grand classique dans les pays germanophones et nordiques d'Europe. Mais que se passe-t-il dedans ? On va le découvrir tout de suite. Dans ce court-métrage, une riche femme anglaise nommée Miss Sophie veut fêter son 99e anniversaire avec ses amis, au nombre de 4. Mais souffrant sans doute de démence, elle ne voit pas qu'elle est seule à table et que son majordome joue en fait le rôle de chacun de ses invités. Et quel rôle ? À chaque fois que l'on change de plat, Miss Sophie entend bien trinquer avec chacun de ses invités. Seulement, c'est le majordome qui a la tâche de trinquer à la place de tous les invités, devant à chaque fois vider son verre. À chaque fois. Donc, au fur et à mesure que le sketch se déroule, le majordome est de plus en plus ivre. Ce sketch passe apparemment tous, et j'insiste sur le tout, les 31 décembre à la télévision, en Allemagne, en Estonie et dans d'autres pays. C'est un classique des périodes de Noël répété chaque année au point que certaines phrases et certains gimmicks sont devenus cultes. Et particulièrement la phrase répétée à chaque fois par Miss Sophie, « The same procedure as every year, James ». Pardon pour mon accent. La même chose que chaque année, James. Bref, un sketch culte, mais dans certains pays d'Europe. Et même pour aller plus loin, sachez qu'une version punk de ce sketch existe, où cette fois le majordome aborde une magnifique crête à l'iroquoise. Ça, c'est curieux, d'accord. Ça peut valoir le détour en tant qu'expérience d'art contemporain. En effet, je suis d'accord avec toi. Ensuite, je pourrais aussi vous parler d'un film polonais. Donc là, je reprends la voix de Richard. C'est très difficile à lire la chronique de quelqu'un d'autre. Hein. Alors, rassurez-vous, un film polonais, ce n'est pas forcément un film d'art et d'essai ou je ne sais trop quoi. Je ne vois pas le problème que Richard a avec les films d'art et essai, c'est très bien l'art et essai, mais d'un film qui pourra vous parler un peu dans son scénario. Il s'agit d'un film n'ayant pas été sorti en France et qui a connu assez peu de diffusion en dehors de la Pologne. Il s'agit d'une comédie romantique nommée Listy du M, en polonais, racontant plusieurs petites histoires d'amour, des couples aux divers profils se créant la veille de Noël. Oui, oui, je sais, ça vous rappelle quelque chose. Je vois notamment David qui me semble trop bien réagir à ça. En effet, c'est une refonte du concept de Love Actually, mais en version polonaise. Même l'affiche du film reprend l'esthétique et l'équivalent britannique sorti 8 ans auparavant. Un film qui nous démontre que les bonnes idées circulent toujours. Et je tiens d'ailleurs à remercier Emeline, absente aujourd'hui, qui m'a permis de découvrir ce film polonais. Emeline, si jamais tu nous écoutes. Au final, en questionnant les autres volontaires sur les films de Noël, on s'aperçoit rapidement que ce sont partout les mêmes films qui reviennent. Les Die Hard, les Maman, j'ai loupé l'avion, le Grinch ou encore le Noël de Charlie Brown. Force est de constater que les films de Noël sont un divertissement qui est le même selon les pays d'Europe. Tout le monde connaît les mêmes films, surtout américains, car il existe là-bas une vraie tradition du film de Noël ou de l'image du Père Noël. À tel point que quand un film d'horreur de type slasher, en gros un film affreux où c'est un Père Noël qui massacre des gens, c'est terrible, ce que nous fera sans doute un jour Guillaume si jamais on le prive de café plus de 24 heures.
C'est très probable.
Mettez en scène un Père Noël en tant que psychopathe et cela a provoqué un scandale outre-Atlantique. Ce Noël standardisé n'existe pas autant en Europe. On peut prendre par exemple l'Espagne, parce que chez eux, ce n'est pas un vieux monsieur barbu avec de l'embonpoint qui vient distribuer des cadeaux, mais les rois mages. Du coup, il faut saluer les efforts que font certaines personnes qui tentent de créer un divertissement marqué Noël-friendly, comme Alain Chabat avec son dernier film, Santa and Company. Cette conclusion, chers auditeurs, je vous dis on se retrouve au mois de janvier et joyeuses fêtes.
Merci beaucoup Ingrid et on te fait des bisous Richard, pas sûr que tu veuilles revenir ensuite dans l'équipe de journalistes, mais quand même, on espère que, on espère que ça t'a plu. On passe tout de suite du coup aux interviews qu'a réalisé Claire et on écoute Béa qui nous parle un peu de son Noël à elle.
Alors, en Lituanie, pour célébrer le Noël, la nuit d'avant le 25 décembre, nous préparons 12 différents plats qui représentent les 12 mois de l'année et toute la famille doit goûter un peu de tous les plats.
On espère que les plats sont bons. Et tout de suite, notre couple de Roumains, Cosimine et Alex, pour leur Noël à eux.
Tout d'abord, il faut savoir qu'en roumain, on dit Crăciun pour Noël et Moș Crăciun pour Père Noël.
En ce qui concerne les traditions, on décore le sapin de Noël, comme tout le monde, mais en plus de la décoration normale, on ajoute aussi des bonbons ou du chocolat emballés dans du papier coloré. Après avoir décoré le sapin, les enfants partent dans le quartier ou village pour chanter de maison en maison. Ils s'appellent les colindatori parce que le chant de Noël s'appelle colinde. Ils reçoivent, selon la tradition, soit du bonbon, du bretzel, de pommes ou de l'argent.
Le repas de Noël en Roumanie est composé de beaucoup de viandes. Par exemple, on mange des saucisses ou des sarmale, qui sont feuilles de choux farcies de viande accompagnées de polenta. En roumain, ça c'est mămăligă et crème fraîche. On boit beaucoup de vin rouge, mais aussi des boissons traditionnelles comme du tuică ou du palinque. Pour le dessert, on mange des cozonac, une brioche farcie de fruits secs ou de chocolat.
Comme vous voyez, le roumain aime manger et faire la fête.
Et tout de suite, le Noël estonien avec Marlène.
Je vais rentrer en Estonie pour faire Noël avec ma famille. Le soir du 24 décembre, nous mangerons un dîner traditionnel de Noël estonienne. Le dîner de Noël estonienne se compose de boudin noir, de pommes de terre au four, de choux, de porc et de confiture. Et pour le dessert, nous mangerons du pain d'épices et de la bière maison. Après le dîner, le Père Noël viendra pour ma petite nièce afin de recevoir des cadeaux. Nous devons chanter une chanson ou lire un poème de Noël. Le Père Noël peut être joué par un voisin ou un ami déguisé et la hôte sera sous le sapin.
Et enfin, on va écouter mon petit chouchou, Chaco, qui vient de Géorgie.
Je pense que la principale différence entre Noël en Europe et Noël en Géorgie est que nous le célébrons le 7 janvier. Nous préférons passer la soirée de Noël avec nos amis et notre famille. C'est comme une réunion pour nous. La veille de Noël, le 6 janvier, les enfants vont dehors et chantent des chansons de Noël et vont de porte à porte où les autres leur offrent des gâteaux et de l'argent. Aussi, je voudrais mentionner que nous n'offrons pas nos cadeaux à Noël. Nous les faisons le soir de Nouvel An.
Bon, alors, avant de commenter et puis de discuter un peu plus avec vous, faudrait remercier quand même Béa, Cosimine, Alex et Marlène qui ont joué le jeu, qui sont pour la plupart pas vraiment très à l'aise avec le français et qui ont quand même bien voulu de parler pendant quelques secondes de leur Noël à eux.
On peut les féliciter, ouais.
Exactement.
On peut les applaudir tout de suite, même.
Exactement. Et alors, on passe avec vous, Yannick, Romy et Michel. Votre Noël à vous, qu'est-ce que c'est ?
Alors moi, pour commencer, je vais. Comme on a entendu le Noël en Lituanie, en Estonie, en Roumanie, moi, c'est l'Allemagne. Et du coup, il n'y a pas trop de différence pour la France. La soirée de Noël, nous, c'est le 24. On va aller à la messe. Même si beaucoup de gens, c'est la seule fois qu'ils vont à la messe pour toute l'année, mais quand même, on va à la messe. Et après, c'est le repas avec la famille, avec les grands-parents, les cousins, les tantes, les oncles. Et rien de très très spécial, on peut faire un peu ce qu'on veut à manger, il n'y a pas un plat de Noël que tout le monde fait. Et après, il y a les cadeaux. Parce que nous, en Allemagne, les repas, ça prend pas autant de temps qu'en France, quand même. Alors, les enfants, ils peuvent attendre quand même le repas. C'est pas des heures et des heures, ça va assez vite. Et comme ça, on a les cadeaux tout à la fin. Et après, c'est un peu ça.
Et qu'est-ce qu'on va savoir sur l'Allemagne ? C'est que les marchés de Noël, ils jouent vraiment un grand rôle. Parce que, c'est pas seulement... la fête de Noël, le 24, mais c'est aussi l'ambiance avant de Noël, avec les marchés de Noël, et on a cette ambiance avec la musique, avec la neige, et tout ça. Et
le vin chaud.
Oui, et le vin chaud. Ah, mais oui. Il y a aussi un boisson pour les enfants, le punch. Son alcool, oui, c'est... Non, c'est vraiment important parce que...
Nous sommes en Allemagne et que ça commence à cet âge-là. Hein.
Oui, moi, comme j'ai juste 18 ans, moi...
Ouais. Est-ce que les bretzels envahissent aussi la période de Noël ? Est-ce qu'il y a des bretzels aussi ?
Non, je pense
pas. Je crois que c'est le seul temps de l'année où on mange presque pas de bretzels.
C'est un comble.
Des bretzels à la dinde.
Des bretzels fourrés, oui. Toi, Romy, est-ce que tu peux nous parler d'un peu ?
Oui, chez nous, en Slovaquie, la journée principale, c'est aussi le 24. Et on passe la journée avec la famille, hein. On prépare le repas et aussi on met l'arbre de Noël. Et le jour, on ne mange pas toute la journée. Et les parents disent aux enfants que s'ils attendent sans manger, à la minuit, ils verront le petit cochon dehors. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a même des pubs à la télé avec les cochons. Je ne sais pas.
Et, des cochons d'or
ouais.
Des cochons dorés.
D'accord, ok, ouais. C'est un concept. Et après, à 18h, on commence le repas traditionnel par un gâteau mince nappé de miel. Et ensuite, vient la soupe à la choucroute avec les saucisses et la crème fraîche. Et après cela, c'est le poisson pané. Souvent de la carpe achetée vivante et lâchée dans le baignoire jusqu'à l'heure du repas. Ouais,
vous mangez pas le borch en Slovaquie ? Vous mangez pas le borch ?
Non.
Non.
C'est du russe, mais.
Oui, mais donc,
c'est pas la même chose.
En Pologne, il y a le borch aussi.
Non, mais c'est le soupe avec choucroute, mais c'est pas le borch. Et on ne termine pas les gâteaux qu'on a préparés pendant la journée. Et après les repas, on change des cadeaux. Et dans beaucoup de familles, on va à la messe de minuit. Et après, tout le monde rentre chez soi. Et dans quelques petits villages, il y a des traditions qui sont spécifiques. Les femmes et les hommes chantent sous les fenêtres de leurs amis, de leur famille pour souhaiter joyeux Noël. Et ça dépend de la région. Il y a des traditions qui sont spécifiques. Par exemple, dans quelques régions, on donne à chacun l'ail, par exemple. Ça amène la santé pour la nouvelle année.
Et la bonne haleine.
Ouais. Ou encore, les écailles des carpes qui sont disposées pour chaque convive séparément dans une petite assiette.
La carpe, on rappelle, elle était en train de flotter dans la baignoire
ouais,
en attendant.
C'est ça, voilà.
C'est ça.
ça amène la prospérité dans la nouvelle année aussi. Là.
Ah, ouais.
C'est excellent. Et est-ce que vous, ça représente quelque chose d'important pour vous, Noël? Ou c'est... Non, pas vraiment.
Bah, c'est juste le temps avec la famille. C'est pour ça qu'on, qu'on tout le monde va chez soi pour le Noël.
Oui, bah, du coup, bah, nous, presque tout le monde, ici, les Européens, presque tout le monde va à la maison pour Noël quand même et voir la famille. Ouais. Il n'y a que ceux qui sont vraiment très, très loin qui n'y vont pas. Mais sinon, tout le monde va... Bah, c'est là, c'est l'occasion de revoir tout le monde parce que là, c'est là que tout le monde aussi a le temps de voir et que tout le monde se prend le temps pour être en famille, surtout. Et on apprécie ce temps précieux qu'on a chaque année, vraiment, avec la famille.
Ça vous donne envie, vous-même, de perpétuer ces traditions plus tard, de faire la même chose avec votre famille, de faire perdurer ça?
Ben oui, c'est l'héritage quand même, c'est important. C'est pas, on fait pas tout, on n'est pas trop attaché quand même. Mais il y a certains trucs oui, qu'on prend aussi de ses parents, de sa famille et qu'on donne après aussi. Bien sûr, c'est important.
Surtout si on n'est pas à la maison pendant toute l'année.
Oui, cette histoire de Père Noël, par exemple, est-ce que vous avez pensé continuer? Enfin, par exemple, moi, c'est peut-être un peu tôt pour y penser, mais je ne me verrais pas dire à mes enfants quel Père Noël qui va passer et tout. Enfin, c'est un peu... des contes comme ça, oui, le moment pour être en famille, échanger, s'offrir des petits cadeaux, pourquoi pas, mais toute cette histoire derrière, vous...
Moi, je préfère les cochons d'or.
Et des cartes, ouais.
Je pense que je vais transmettre le cochon d'or chez moi, mais là, c'est vachement mieux que le Père Noël.
Ça veut dire qu'on se déguise en cochon, au lieu de se déguiser en Père Noël en Slovaquie.
Et ça va être les enfants d'Ingrid qui vont dire au jardin d'enfants, ah oui, chez nous, c'est le cochon d'or qui va passer.
Ah ouais. Avec une carte dans la bouche, pour pas comprendre.
Tu vas les exclure.
C'est trop ça.
Pourquoi pas, hein.
Je vais être convoquée chez la directrice. Oh.
Oups. Bon, du coup, moi, je voulais continuer un petit peu à parler de Noël. Et à l'origine, cette fête, en fait, c'est une fête païenne. Elle existait sous différentes formes pour marquer le solstice d'hiver. Donc aujourd'hui, c'est devenu une fête particulièrement chrétienne et ça célèbre chaque année la naissance de Jésus de Nazareth. On appelle ça la nativité. Bon, en plus de faire le bonheur des petits et des grands, c'est une grande tradition musicale et du coup, ça, c'est cool. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Noël dans le monde et à ses chants. Par exemple, Noël chez les orthodoxes. Dès le 4e siècle, les églises d'Orient célèbrent la naissance de Jésus dans la nuit du 6 au 7 janvier. Cette fête commémorait la manifestation de la naissance du Christ. Quand l'obscurité était tombée, à la première étoile, on se mettait à table et on partageait des petites galettes de pain azim en échangeant des souhaits de bonheur et de joie. On passe ensuite avec les musulmans. Le Coran affirme que Jésus est né d'une vierge miraculeusement. Mais l'islam reconnaît Jésus comme un prophète et non comme un fils de Dieu. La raison est que, pour les musulmans, Dieu est une abstraction. Il n'a pas été enfanté, il n'enfante pas. Prenez-en de la graine, soit dit en passant. Mais l'islam permet-il de fêter la naissance des prophètes? Ben, les musulmans sont divisés sur ce point. Certains fêtent le jour de Noël pour les enfants et pensent qu'un musulman peut accepter l'invitation de ses amis chrétiens à participer à la fête. Les écrits disent « Si ton voisin est en fête, réjouis-toi avec lui ». Ensuite, on va forcément parler des Juifs. Les Juifs ne célèbrent pas Noël, mais ils ont une fête à célébrer en décembre qui s'appelle Hanouka, la fête des Lumières. Pendant Hanouka, chacun allume une bougie d'un chandelier à 8 branches, chaque soir de la semaine. Cette coutume commémore la reconquête d'Israël au 2e siècle avant Jésus-Christ. Pendant Hanouka, les Juifs s'échangent un cadeau par jour pendant 8 jours, et les enfants juifs reçoivent traditionnellement une toupie marquée des 4 initiales hébraïques qui signifient Ce fut là un grand miracle. Et enfin, Vesak, chez les bouddhistes. Vesak est la période de l'année la plus importante du calendrier bouddhiste. Il correspond à la pleine lune de mai et commémore à la fois la naissance, l'éveil et la mort de Bouddha, mais aussi la foi en l'éveil et la possibilité d'y accéder par soi-même au travers de l'harmonie de la Sangha, qui est l'assemblée de tous les pratiquants, qu'ils soient moines ou laïcs. Le Vesak, c'est l'occasion de consolider les rapports et d'apporter l'harmonie. Alors la musique, c'est un truc de groupe, c'est un truc qui unit. Pour chaque religion, les chansons que je vous ai fait écouter sont des moments de rassemblement qui appellent à la bienveillance. Quand on parle religion, ce qui pour beaucoup est devenu un gros mot, c'est ainsi, eh bien, il faut aussi parler de ça. Dans tous les cas, que vous soyez croyant ou non, pieux ou non, on pourrait dire que Noël, c'est l'occasion de consolider les rapports entre nous et donc d'apporter cette harmonie, en échangeant des souhaits de bonheur et de joie. Et si ton voisin est en fête, réjouis-toi avec lui, ce fut là un grand miracle. Et puis la religion, c'est quoi dans le fond? Un prophète, des paroles, une aura, de l'amour, Jésus ressuscité 3 jours après sa mort. Jésus, Johnny, grouille-toi.
Comme enlève ce petit débat et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'en permanent pour aider à des femmes. On m'a trop donné.
Johnny, mais je vais essayer. Pour cette dernière chronique d'actualité européenne, que s'est-il passé en Europe ces derniers temps? Je vous fais le topo. Et je commence cette chronique par un focus sur l'Allemagne, un clin d'œil à Yannick et Michel, qui se trouve en pleine crise politique. Très concrètement, les élections législatives allemandes du 24 septembre dernier ont placé la CDU, le parti politique d'Angela Merkel et son allié, la CSU, en tête, mais avec un score plutôt décevant, 34,7% des voix pour seulement 246 sièges sur les 598 du Bundestag, le Parlement allemand. Pour former un gouvernement majoritaire, c'est-à-dire qui aurait le soutien de la majorité des sièges au Bundestag, Merkel doit donc rechercher des alliés. Or, le SPD, qui est le grand parti de gauche, centre-gauche, qui arrivait deuxième lors de ces élections, avec 21,5% des voix et 153 sièges, soit un score en très net recul par rapport à ses espérances, a d'ores et déjà annoncé qu'il refusait de faire un gouvernement de coalition avec Merkel, jugeant que ça ne lui est guère favorable électoralement. Pour former son gouvernement, Merkel devait donc composer avec 2 autres formations politiques, les libéraux-démocrates arrivés 4e derrière l'extrême droite et les écologistes, le parti vert étant arrivé en 6e position, juste derrière la gauche radicale Die Linke. Mais ces négociations à 3 ont échoué, les libéraux ayant estimé que leur position était trop antagoniste pour être dans le même gouvernement que les Verts et que la CDU. Comprenant que de nouvelles élections ne changeraient rien et sous la pression du président de la République allemand, Frank-Walter Steinmeier, ayant sommé les partis à s'entendre, le SPD, en la personne de Martin Schulz, a finalement accepté de rencontrer Angela Merkel pour voir s'il était possible de faire un gouvernement de coalition. Les tractations s'annoncent ici encore difficiles car le vote récent de l'Allemagne en faveur du glyphosate à l'échelle de l'UE rebute grandement le SPD et divise même la CDU entre elles. C'est donc une affaire à suivre. Dans le reste de l'actualité maintenant. Glyphosate justement, l'UE a renouvelé l'autorisation de cet herbicide. C'est le lundi 27 novembre que les États ont voté en faveur du renouvellement pour 5 ans de l'autorisation d'utilisation de cet herbicide de Monsanto très controversé. Au total, 18 pays ont voté pour, dont l'Allemagne, 9 ont voté contre, dont la France, et un pays s'est abstenu. Réagissant à cette nouvelle, le président de la République française, Emmanuel Macron, a déclaré que le glyphosate sera interdit en France dès que des alternatives auront été trouvées, soit au plus tard dans 3 ans. Nous verrons s'il respecte sa promesse. Grandes auditions organisées au Parlement européen sur le thème du handicap. Actuellement, c'est plus de 600 représentants des associations de personnes souffrant de handicap, dont l'UNAPI, qui sont représentés au Parlement européen pour parler de leurs droits. À l'aube de l'examen d'une proposition législative visant à améliorer la loi européenne sur l'accessibilité, pour rendre plusieurs produits et services accessibles à tous en Europe, cette concertation pourra, on l'espère, améliorer les droits des personnes souffrant de handicap en Europe. Catalogne, quel avenir pour cette région si elle devient indépendante? Déçu par le manque de soutien de l'Union européenne quant à sa volonté d'indépendance, le président déchu de la Catalogne, Carles Puigdemont, qui s'était auparavant toujours défini comme un Européen convaincu, affirme désormais que l'UE est un club de pays décadents, obsolètes, dirigés par un petit nombre de personnes et liés à des intérêts économiques de plus en plus discutables. À la question de savoir si la Catalogne indépendante ferait partie ou non de l'UE, Carles Puigdemont a préféré botter en touche en disant qu'il organiserait un référendum sur cette question une fois que la Catalogne aura obtenu son indépendance. Ici encore, affaire à suivre. Et enfin, pour conclure, quel bilan pour les jeunes reporters européens après 7 émissions à O2 Radio? Je dirais qu'il est positif. En somme, notre émission, nos chroniques culture, portraits, nos débats suite aux interviews, nos découvertes des pays de l'Europe, tout cela a pour but, chers auditeurs, de vous montrer la richesse de l'Union européenne et plus largement de l'Europe, et qu'il serait au fond bien dommage de se replier sur soi. Enfin, je tiens à vous rassurer quant à mes relations au sein de l'équipe et particulièrement vis-à-vis de Richard, il n'y a aucun problème. Richard est un jeune homme très prometteur qui fait de son mieux. Et si nous perdons certainement des auditeurs avec sa chronique, nous les récupérons très largement avec la mienne. Donc tout cela n'est pas si grave. Voilà, c'est tout pour moi. Oui, c'est qui ?
C'est le facteur. Vous avez une carte postale.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve sur les ondes pour une chronique à la fois féerique et fantastique. En effet, ce matin, je tiens entre mes mains une lettre venue d'un pays lointain. Il s'agit de la Laponie. Mais son auteur m'est inconnu. Il dit vouloir rester poli en ne me disant pas son nom, car chaque nation le nomme d'une splendide façon, mais il se décrit comme un père saugrenu de rouge vêtu. Cette enveloppe, soigneusement cachetée par un sapin scintillant et pailleté, cache en réalité une magnifique carte postale, à la fois lumineuse et hivernale. Au dos de la carte, notre mystérieux correspondant nous écrit ce message éblouissant. Voyager, c'est avant tout rêver, mais c'est aussi se laisser bercer par l'imagination, ne pas résister et voguer au gré de nos sensations. Voyager, c'est oublier le temps et la réalité, pour enfin s'envoler à la découverte de nouvelles contrées. Soudain, dans ta tête résonne au loin le rire cristallin des lutins. Ça y est, ton esprit est parti, bercé par cette jolie magie. Alors prépare-toi et ferme les yeux, surtout élève-toi vers les cieux, parce que cette semaine on se fait la belle emportée par le doux thème de Noël. Ma plume virevolte et dessine les contours de l'Europe, et nous voilà plongés dans les années d'un marché, celui de la petite ville de Sigtuna. Et c'est avec joie que tu entames ton errance parmi les innombrables chalets en bois. Tel un village de poupées ornées de clochettes, ces petites maisonnettes te plongent en enfance. Aux pieds enneigés de la place du marché, trône la majesté d'un immense érablier. Ses feuilles sont décorées de multiples lampions illuminés, de couleurs vermillon. Sigtuna est un paysage de Noël éternel. 700 ans, c'est l'âge de ce marché mythique et irréel. Et c'est le plus vieux d'Europe. Il n'y en a pas d'autre de la sorte. Dans l'air, tu humes une odeur de vin chaud. Il est temps de s'éloigner de la froideur de la brume et de réchauffer ta peau. Ça y est, tu t'es réfugié à l'intérieur d'une cabane enchantée et tu dégustes ta boisson près de la cheminée. C'est alors que tu aperçois au coin du feu des feux follets en train de festoyer avec des fées. Mais attention, cette illusion n'est que le fruit des fées de ton esprit, et je crois que la paresse et l'ivresse semblent t'emporter. Allez, il est temps de s'en aller. Remets tes moufles et ton bonnet, et en un souffle te voilà projeté en Écosse au milieu de l'île Skye. Cette fois-ci, il fait nuit, l'air est pur et il n'y a aucun bruit. Mère Nature t'attendait pour t'offrir un spectacle digne du paradis. En effet, le ciel s'est paré de sa plus belle robe noire, celle zébrée d'élégantes spirales, c'est la beauté multicolore des aurores boréales. Alors fais un vœu et laisse ton âme s'emplir d'espoir. Sur la plage de l'Iscaillé tombe la neige, les anges ont soufflé leur blanc cortège. Dans le vent, les flocons dansent et tourbillonnent. Sur les branches fleuries des houx, la glace se pose et papillonne. Sur cette page blanche immaculée, on peut curieusement distinguer les traînées d'un traîneau, mais surtout l'intrigante trace de huit rennes et de leurs sabots. Décidément, l'île Skye dans la douceur de sa brise nous réserve bien des surprises. Voilà, avant de m'en aller, je vous laisse tranquillement vous éveiller de ce voyage magique et poétique, et c'est avec brio que je repasse le micro à David.
Merci beaucoup Héloïse, on arrive au terme de notre émission. Alors merci à plein de gens, merci à Béa, Cosmine, Alex, Marlène et Chaco que vous aviez pu entendre en enregistrement, qui ont joué le jeu, et encore une fois bravo et merci. Merci à Yannick, Romy et Michel qui étaient là en plateau avec nous, c'était chouette de vous avoir et de pouvoir discuter de ça avec vous. Merci à Philippe en régie qui fait toujours un travail formidable, et enfin merci à tous les journalistes.
Merci à Claire aussi.
Et oui, merci à Claire qui a réalisé les interviews. Ouais. Et merci du coup à tous les journalistes qui ont pu participer à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, on espère, avec Ingrid, peut-être qui se sera remis qui s'est retenu tout le long de pas tousser. Donc on se retrouve avec un peu de chance la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne après-midi, et on vous prévient tout de suite que en janvier on aura une émission spéciale où on aura pu interviewer Philippe Poutou. Voilà, bon après-midi sur Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonne, sur la fréquence 91.3.